VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 20 janvier 2021. Bonjour, bienvenue. Bandao, le président de transition au Mali, a renouvelé mardi soir la gratitude de son pays aux armées étrangères engagées dans la guerre contre les djihadistes à l'occasion du 60e anniversaire mercredi de l'armée malienne. Cet anniversaire est célébré alors qu'une manifestation contre la présence militaire française au Mali est prévu aujourd'hui même dans l'après-midi à Bamako à l'appel d'un collectif formé d'organisations de la société civile, de partis politiques et d'activistes. Union sacrée en République démocratique du Congo, le chargé de mission de Félix Tshisekedi, le sénateur Bahati Lukwebo, face aux premières difficultés, l'informateur a exposé ses objectifs à la presse mardi. Le président Tshisekedi a annoncé le 6 décembre la fin de sa coalition au sommet de l'État avec son prédécesseur Joseph Kabila, toujours majoritaire au Parlement. M. Tshisekedi n'est toujours pas parvenu à un accord avec ses deux principaux nouveaux alliés potentiels, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, qu'il a reçu la semaine dernière. La mission de l'informateur doit durer 30 jours, renouvelable une seule fois selon la Constitution. Les indépendantistes du Front Polisario se sont dit prêts mardi à reprendre les négociations à l'ONU sur le statut du Sahara occidental, mais ils n'envisagent pas de déposer les armes, pour autant échaudés par 30 ans de statu quo. Le Polisario se dit en état de guerre de légitime défense depuis que le Maroc a envoyé le 13 novembre des troupes à l'extrême sud du territoire pour chasser un groupe de militants indépendantistes sahraouis qui bloquait la seule route vers la Mauritanie voisine. De violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté mardi pour une cinquième soirée consécutive dans plusieurs villes de Tunisie, dont la capitale Tunis et Sidi Bouzid, le berceau du printemps arabe, alors que la colère et la frustration grandissent à propos de la crise économique. Des affrontements ont éclaté dans des quartiers défavorisés de Tunis, où des centaines de jeunes manifestants en colère ont incendié des pneus et bloqué des routes. Au cours de la journée, les manifestants ont notamment demandé la création d'emplois, alors que les restrictions sanitaires imposées face au coronavirus ont encore davantage creusé le malaise économique. Le premier ministre tunisien Hichem Mechichi a assuré mardi que la colère était légitime tout en prônant la fermeté face aux violences après plusieurs nuits de heurts dans des quartiers marginalisés, frappés de plein fouet par une crise sociale accentuée donc par le coronavirus. Ici aux États-Unis, le président sortant Donald Trump a prié mardi dans une vidéo diffusée pour ses adieux à la Maison-Blanche pour que la future administration de Joe Biden, qu'il n'a pas mentionné par son nom, réussisse à maintenir la sécurité et la prospérité de l'Amérique. La fin de la présidence de Donald Trump restera marquée par l'assaut lancé par des centaines de ses partisans le 6 janvier contre le Capitole pour tenter d'empêcher la certification par le Congrès de la victoire de Joe Biden. À la veille de son investiture à la Maison-Blanche, Joe Biden a présidé mardi à Washington une cérémonie nationale pour commémorer les 400 000 personnes ayant succombé au COVID-19 aux États-Unis depuis le début de l'épidémie. Alors que la nuit tombait sur Washington, 400 lampes alignées ont été allumées dans le centre-ville en hommage aux 400 000 morts de l'épidémie. Les cloches de la cathédrale nationale ont retenti 400 fois après que Joe Biden se soit exprimé près du Lincoln Memorial. Trois nouveaux sénateurs démocrates vont prêter serment mercredi, aujourd'hui donc, avant de prendre leur fonction au Sénat américain, faisant basculer la Chambre haute du Congrès dans le camp du président Joe Biden. Les sénateurs de Géorgie, Raphaël Warnock et John Ossoff, et le sénateur de Californie, Alex Padilla, prêteront serment après la cérémonie d'investiture du président élu prévue à midi, heure de Washington, c'est-à-dire 17h GMT. Le Sénat sera ainsi divisé en deux blocs de 50 élus, mais la vice-présidente élue, Kamala Harris, aura le dernier mot pour trancher en cas d'égalité, donnant de facto la majorité au Parti démocrate qui contrôle désormais la Chambre des représentants avec 221 sièges contre 211 pour les Républicains et 3 sièges vacants. VOA Afrique Info en ligne de mire dans ce journal. Tout ce que vous devez savoir sur l'investiture du président élu Joe Biden aujourd'hui même. Jean-Roger Billon, on revient donc dans un instant. Nous émettons de Washington. La suite de nos informations en ce mercredi 20 janvier 2021 avec exclusivement ce qui fait l'actualité ici aux États-Unis. Joe Biden prête serment aujourd'hui à Washington. C'est une journée historique qui va culminer à midi quand il va devenir officiellement le 46e président des États-Unis. Le programme de la journée avec Abdulrahman Dia.
Le président élu et son épouse Jill ont passé la nuit à Blair House, juste en face de la Maison Blanche. Dans la matinée, Joe Biden va assister à un service religieux à la cathédrale Saint-Mathieu. Il a invité les chefs de file des deux chambres du Congrès, les démocrates Nancy Pelosi et Chuck Schumer, et les républicains Kevin McCarthy et Mitch McConnell. Le président élu se rendra ensuite en convoi vers le Capitole, où la cérémonie d'investiture va commencer à midi heure locale, 17 heures en temps universel. Il va prêter serment après sa vice-présidente Kamala Harris, avant de faire son discours inaugural. Puis l'hymne national sera chanté par Lady Gaga. En début d'après-midi, Joe Biden se rendra au cimetière national d'Arlington, près de Washington, pour déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu en compagnie des anciens présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton. Au retour, ce convoi doit s'arrêter à quelques dizaines de mètres de la Maison-Blanche pour laisser Joe Biden y entrer à pied et entouré d'une escorte militaire. C'est là qu'il doit signer ses premiers décrets présidentiels. Dans la soirée, à 20h30, le comédien Tom Hanks doit présenter une émission spéciale dite « Pour fêter l'Amérique » qui sera diffusée sur toutes les grandes chaînes de télévision américaines.
Après la violente attaque des partisans du président sortant Donald Trump contre le Capitole au début du mois, les Américains se préparent au pire, mais espèrent retrouver l'unité, thème de l'investiture de Joe Biden. Reportage de Mike O'Sullivan, récit John Lydon.
La sécurité est renforcée pour la cérémonie la plus importante du pays qui a lieu tous les 4 ans. L'investiture d'un président. Washington n'a jamais vu une telle présence militaire depuis la guerre civile. Jusqu'à 25 000 soldats de la garde nationale ont été déployés avec des policiers en renfort. Dans ce contexte, le thème de l'investiture de Biden, l'Amérique unie, paraît ambitieux. Terrence Kenner, ancien chef de la police du Capitole, reste confiant.
The planning for that has been going on for over a year, as it was when I ran some of those operations.
La planification se poursuit depuis plus d'un an, comme c'était le cas lorsque je dirigeais certaines de ces opérations. Et il y aura environ 5 000 agents des forces de l'ordre des États-Unis et des comtés à faire venir pour compléter les services secrets, le FBI et la police du Capitole. Je suis convaincu que l'investiture du prochain président des États-Unis se déroulera sans heurts.
Sécurisée et socialement éloignée, une grande partie de la cérémonie sera virtuelle, animée par l'acteur Tom Hanks, avec des artistes comme Lady Gaga et Jennifer Lopez. Une grande partie de la capitale sera fermée. Des drapeaux américains ont été plantés sur l'espace du mall pour représenter les centaines de milliers de personnes qui avaient l'habitude de prendre part en personne à la cérémonie. Compte tenu des manifestations dans certains États, une sécurité supplémentaire est attendue dans les 50 États de la Fédération. Un récent sondage indique que les 3/4 des Américains craignent des violences. Caroline Persforce-Wood estime que les tensions sont aggravées par des policiers qui ne répondent souvent pas aux besoins de la nation.
Je pense que les gens sont souvent déconnectés des communautés qu'ils prétendent représenter. Alors je pense que le système est cassé.
Deux amis, hôtesses de l'air, en désaccord politique, sont d'accord sur une chose. Les Américains doivent se rassembler. Écoutons d'abord Laura, puis Linda.
La droite se radicalise vers la droite et la gauche se radicalise vers la gauche.
Et c'est là que je suis d'accord avec elle. Je pense que la droite est trop à droite et la gauche est trop à gauche.
Parmi les défis qui attendent Biden, une Corée du Nord belligérante, mais aussi le face-à-face avec la Chine et la Russie. Les défis intérieurs comprennent la flambée des infections au COVID-19, le chômage élevé et les divisions politiques. Anwar Hawk, professeur d'université.
L'important, c'est que nous voulons aller de l'avant.
Et beaucoup espèrent unifier un pays très divisé.
Donald Trump a passé hier sa dernière journée pleine à la Maison-Blanche au moment où son successeur Joe Biden arrive à Washington et se prépare à prêter serment. Le point avec Bagassi Koura.
Avant son départ pour la Floride, le président sortant Donald Trump pourrait gracier plusieurs dizaines de personnes. Il quitte le pouvoir avec une cote de popularité au plus bas. Quelques 25 000 soldats de la garde nationale et des milliers de policiers sont déployés à Washington pour assurer la sécurité de la cérémonie d'investiture de son successeur Joe Biden. Depuis le 6 janvier, près de 70 manifestants ont été inculpés pour avoir participé à l'assaut contre le Capitole. Ils ont été abreuvés de mensonges et incités à agir par le président, a déclaré Mitch McConnell, chef des sénateurs républicains, des plus solides alliés de Trump. Mitch McConnell avait même fait savoir, après la mise en accusation du président Trump, qu'il n'excluait pas de le juger coupable lors de son procès au Sénat. Lundi, la future ex-première dame, Melania Trump, a publié un message d'adieu affirmant que la violence ne devait jamais être la solution. Le gouvernement sortant a de son côté annoncé d'ultimes décisions, dont la plus spectaculaire est celle du secrétaire d'État Mike Pompeo de considérer que la Chine commet un génocide contre les musulmans ouïghours.
Avec vous, cette semaine dans Washington Forum, l'investiture de Joe Biden comme 46e président des États-Unis. L'ancien vice-président de Barack Obama se donne comme mission d'unir un pays divisé suite à l'assaut contre le Capitole qui a obligé les autorités à fortifier Washington. Il a aussi annoncé un ambitieux plan de relance économique et un vaste programme de vaccination contre le COVID-19. Joe Biden annonce aussi une nouvelle dynamique dans les relations entre les États-Unis et le reste du monde. Avec nos invités, nous allons décortiquer le programme de Biden et le caractère historique de la vice-présidence de Kamala Harris. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voafrique.com.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Début ce soir des matchs de la deuxième sortie dans le groupe A, dans le 6e championnat d'Afrique des Nations au Cameroun. Après leurs deux premières sorties victorieuses, les Lions indomptables camerounais et les Aigles maliens s'affrontent. Dans la seconde rencontre, le Burkina Faso et le Zimbabwe tenteront de se donner plus d'espoir après leur première sortie soldée par des défaites. Hier, dans le groupe D, la Zambie a réussi son entame face à la Tanzanie, battue 2-0, avec des buts de Golden Mafuenta et Kelvin Kapamba. Handball et direction l'Égypte où se joue le mondial masculin. Hier, l'Angola est tombée d'un petit point devant le Japon, vainqueur 30-29. La RDC a perdu 34-27 face à Bahreïn, 36-30 pour l'Espagne qui est venue à bout de la Tunisie. La Croatie a battu le Qatar 26-24. Ici aux États-Unis, la NBA a annoncé le report du match prévu ce soir entre Charlotte et Washington, les Wizards n'ayant pas suffisamment de joueurs disponibles, alors qu'un minimum de 8 par équipe est requis pour jouer. Washington doit faire 106 joueurs positifs au COVID-19 et d'autres également tenus d'observer une quarantaine du fait qu'ils sont leur cas contact potentiel. C'est le 5e match consécutif manqué par les Wizards en 8 jours et le 15e reporté depuis qu'a débuté il y a presque un mois la saison régulière de la NBA. Malgré tout, l'entraîneur de Washington, Scott Brooks, a réaffirmé sa confiance en la NBA qui ne veut pas interrompre momentanément sa saison. Toujours ici, aux États-Unis, la Ligue nationale de football américain NFL a annoncé son équipe d'arbitres pour le prochain Super Bowl, avec parmi eux Sarah Thomas, la première femme à officier lors de cette grande messe annuelle du sport nord-américain. En 2015, Sarah Thomas est devenue la première femme arbitre à plein temps NFL
avant de devenir en 2019 la première femme à officier lors d'un match de play-off. Le 55e Super Bowl aura lieu à Tampa, en Floride, le 7 février. Les champions en titre, les Kansas City Chiefs, sont candidats à leur propre succession et affronteront les Buffalo Bills en finale de conférence dimanche pour une place au Super Bowl. Dans l'autre finale de conférence, les Green Bay Packers recevront, eux, les Tampa Bay Buccaneers, menés par le quarterback superstar Tom Brady.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon, toujours en votre compagnie. À présent, le dossier du jour. Le président élu Joe Biden prête serment aujourd'hui comme le 46e président des États-Unis. Au Nigeria, cette passation de pouvoir intéresse des millions de Nigérians, surtout après l'attaque contre le Capitole par des partisans du président sortant Donald Trump. Réaction de Nigérians sur la démocratie américaine, un reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
L'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis suscite des réactions majoritairement positives sur le continent africain. Si au sommet de l'État nigérian, on espère du futur occupant de la Maison Blanche un plus grand engagement en matière de lutte contre le terrorisme dans les rues de la capitale fédérale Abuja, les Nigérians sont unanimes sur leur attente de la nouvelle administration américaine.
I'm really happy.
Je suis très contente et je reste confiante pour ce nouveau départ, particulièrement avec une dame comme la vice-présidente, Mme Kamala Harris. Je m'attends beaucoup à sa contribution. Je suis certaine qu'elle est la première, mais elle ne sera pas la dernière. Donc je suis fière de l'avenir des femmes et de ce que les femmes peuvent contribuer.
My expectation is that
je m'attends à ce que la plupart des politiques non favorables aux musulmans, aux Africains et autres pays en voie de développement dans le monde initiées par Trump, par des décrets, soient aussi changées par des décrets du président élu Joe Biden.
Concernant les récents développements aux États-Unis après l'attaque contre le Capitole, on craint ici l'impact que cela pourrait avoir sur la jeune démocratie africaine et sur l'acceptation des résultats des prochaines élections sur le continent.
C'est un moment pour nous de comprendre que la démocratie s'installe dans le monde entier. Oui, certaines choses qui se passent en Afrique et dont on parle beaucoup dans les médias peuvent aussi se produire dans d'autres parties du monde. C'est tout ce que cela nous apprend. Donc, en tant qu'Africains, nous devons commencer à mieux parler de nous-mêmes parce que ces événements qui se passent en Afrique se déroulent aussi dans d'autres pays.
Trump avait ses forces et ses faiblesses et beaucoup étaient concentrés sur ça. Mais sur le plan mondial, Trump a fait du bien. Pour les Américains, beaucoup ont leur part dedans. Et pour l'Afrique, Joe Biden doit faire plus. L'annonce des interdictions de visa pour les ressortissants nigérians par l'administration Trump au début de l'année 2020, pour raison de sécurité, avait suscité de vives réactions de condamnation au Nigeria.
L'annonce des interdictions de visa pour les ressortissants nigérians par l'administration Trump au début de l'année 2020, pour raison de sécurité, avait suscité de vives réactions de condamnation au Nigeria. Pour les quatre prochaines années de l'administration de Joe Biden, les Nigériens fatigués des effets négatifs de la crise dans le nord-est du pays souhaitent un rapprochement pour ramener la paix dans le pays. Gilbert Tamba, Abuja, VOA.
En République centrafricaine, après sa réélection, le président Faustin Archange Touadéra appelle à l'unité de tous les Centrafricains. Pour le chef de l'État, l'heure n'est plus aux tergiversations, mais à une action commune afin de poursuivre ensemble le combat de la défense de la souveraineté. À Bangui pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Je suis le président de tous les Centrafricains, a martelé Faustin Archange Touadéra, qui se présente comme le rassembleur. Le président réélu appelle à l'unité pour combattre le mal.
Aujourd'hui, je vous réaffirme que je suis le président qui rassemble toutes les filles
et tous les fils de la République centrafricaine. Je suis le président de tous les Centrafricains, sans distinction d'origine politique, régionale, ethnique, religieuse, philosophique et sociale. Fidèle à ma politique de main tendue, d'addition et de multiplication, je tends la main à tous les compatriotes et prie de paix.
Le pays étant en guerre, le président centrafricain sollicite le soutien de ses concitoyens en faveur des forces nationales, de leurs alliés et de la MINUSCA.
Je voudrais ici féliciter du fond du cœur nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais remercier et encourager la MINUSCA, les forces spéciales amies russes et rwandaises pour leur appui aux forces de défense et de sécurité de notre pays qui ont permis de contrer l'offensive rebelle et de protéger les institutions de la République. Je vous exhorte instamment à continuer à soutenir par tous les moyens nos forces de défense et de sécurité ainsi que la MINUSCA et les forces spéciales russes et rwandaises jusqu'à la victoire finale sur les forces du mal.
Dans la capitale Bangui, les réactions n'ont pas tardé. Martin Ziguélé, sorti troisième avec 7,54%, dit prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle.
La constitution de notre pays dit que lorsque vous allez à des élections, le juge final, c'est la Cour constitutionnelle. Nous avons fait ce recours et la Cour constitutionnelle a donné son verdict hier. En tant que démocrate et en tant que républicain, nous respectons notre engagement et nous prenons acte des résultats qui ont été publiés hier. Donc il faut qu'on soit lucide sur la situation de notre pays qui est à genoux et faire une offre politique qui ne consiste pas à faire de la ruse, à faire de la roublardise, mais à trouver les bonnes solutions pour répondre aux attentes de la population pour que la paix revienne dans notre pays.
Pour la société civile, le peuple a tant souffert, l'heure est à l'apaisement. Chantal Solange-Touabina, coordonnatrice de la plateforme de la société civile en République centrafricaine.
Je lance un vibrant appel à l'endroit de la population, à l'endroit de tous les fils du pays, d'accompagner ce président pour le relèvement de la RCA. En tant que société civile, je demande au président de la République de travailler, d'ouvrir ses bras et d'accueillir tous ses frères sans exception. De travailler avec ses frères. Il est le président de tous les Centrafricains. Il n'est pas le président d'un parti politique. Il est le président de tous les Centrafricains.
Réélu avec 53,16% des voix, Faustin Archange Touadéra prêtera serment pour un nouveau quinquennat le 30 mars 2021. Fluman Sipila Bongui pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
En Côte d'Ivoire, le COGEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, parti de l'ancien chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé, a annoncé son retrait d'une coalition de l'opposition dénonçant des guerres de positionnement. Le COGEP dit suspendre sa participation aux activités liées aux élections législatives avec les plateformes de l'opposition, les deux principaux partis d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ancien président Henri Konan Bédier et le Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo ont annoncé début janvier avec leurs alliés leur participation au scrutin du 6 mars. Yacouba Ouédraogo, adjoint à Abidjan, Patrice Saraka, secrétaire général du COGEP.
À travers ce retrait, c'est un message que le COGEP et la voix du peuple veulent donner à la classe politique ivoirienne. Parce qu'en effet, nous sommes engagés dans ces plateformes pour un changement de gouvernance. Mais vous êtes sans ignorer que ces élections interviennent dans un contexte tout particulier, celui lié aux élections présidentielles d'octobre 2020, où les populations ont subi un traumatisme sans précédent. Il y a eu des morts et des pertes énormes. Donc au moment où c'était ces élections, on doit toujours garder à l'esprit que nous avons un peuple qui est traumatisé et que les élections font peur parce que les conditions, l'environnement électoral, l'environnement politique restent toujours délétères. Donc face à cette situation, nous comprenons l'enjeu des élections législatives. Mais il faut y aller en gardant cela à l'esprit. Et les attitudes, les comportements doivent militer à aller dans ce sens. Et quand on se rend compte que beaucoup de partenaires sont occupés à se partager des circonscriptions, la question du positionnement et de l'acquisition d'espaces géographiques, politiques devient des enjeux prioritaires. Alors, en ce moment, nous sommes préoccupés, nous sommes dit, visiblement, les gens perdent de vue cette souffrance des populations et nous estimons que les autres peuvent continuer, c'est leur responsabilité.
Dans votre déclaration, vous parlez de guerre de positionnement. Qui sont ces partis qui se positionnent et que vous n'aimez pas?
Je ne vais pas citer des partis politiques, des personnalités politiques, mais j'interpelle simplement la classe politique. Si nous voulons changer la gouvernance, si nous voulons combattre la dictature, il doit y avoir de la démocratie interne. On ne peut pas combattre la dictature et avoir une attitude de dictature en interne de domination des alliés.
Justement, docteur Saraka, vous formez une plateforme de l'opposition avec le PDCI d'Ari Kona Bédié et le FPI de Laurent Gbagbo. Si vous parlez de pratiques qui ne sont pas à votre goût, il ne s'agit que de cette plateforme-là et avec les partis qui la composent.
Non, c'est à vous de tirer les conclusions.
Avant vous, c'est le mouvement de Guillaume Soro qui a annoncé son boycott des prochaines législatives de mars. Est-ce qu'il faut s'attendre à une certaine coalition entre le COGEP et le mouvement de Guillaume Soro?
Nous assumons ce que nous faisons et nous n'avons pas attendu de nous concerter avec qui que ce soit. Nous voulons donc offrir aux Ivoiriens une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de faire la politique. Et le changement doit commencer par nous. Le changement de mentalité, le changement de gouvernance doit commencer par nous. Et c'est pour ça que nous voulons donner l'exemple.
Patrice Saraka, secrétaire général du COGEP, joint à Abidjan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Direction le Sénégal, le président Macky Sall annonce une opération de vaccination pour ses compatriotes qui va débuter dès mars 2021 pour s'étendre jusqu'à mars 2022 avec pour objectif de vacciner tous les Sénégalais contre le Covid-19. Que pensent les populations de cette opération? Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay, a recueilli quelques réactions.
C'est dans les rues du quartier de Sikap Liberté 5 que nous avons rencontré Ousmane, jeune fonctionnaire. Il est sur le point de prendre sa pause déjeuner dans un restaurant juste à côté de son lieu de travail. Interpellé sur la campagne de vaccination annoncée par le chef de l'État Macky Sall pour barrer la route au coronavirus, il reste sceptique et ne compte pas le faire. Pourquoi? Voici sa réponse.
Par rapport au vaccin, il y a d'abord un certain nombre de paramètres qui nous paraissent contradictoires et qui font que j'hésite à pouvoir faire un vaccin. Les spécialistes eux-mêmes ne s'accordent pas sur quel est le bon vaccin. J'ai vu des professeurs d'université à médecine qui disent qu'ils ne se vaccineront pas et que leurs enfants ne se vaccineront pas et leur famille ne se vaccinera pas. Donc, par conséquent, cela nous amène à avoir des doutes. Maintenant, au-delà de ces doutes, il y a une perception générale de ma part qui fait que tout ce qui est médicament pharmaceutique, j'ai une sorte d'allergie psychologique à l'endroit de ces médicaments-là.
Ousmane, sceptique à l'idée de se faire vacciner contre le COVID-19, tout le contraire de Mama Diallo, elle est consciente de la gravité du virus. Pour se protéger et protéger son entourage, elle se fera vacciner à la première occasion.
Et en fait, me faire vacciner contre le coronavirus, je ne fais pas partie des gens qui pensent que c'est une maladie qui a été inventée de toutes pièces ou bien qui serait le fruit d'un complot international. Donc, quand j'entends parler les médecins, quand on voit les conséquences que cette maladie a générées dans le monde et au Sénégal également, je reste convaincue de la dangerosité de la maladie. Et du coup, je n'hésiterai pas une seule seconde à me faire vacciner contre cette maladie, dont le vaccin reste le moyen le plus sûr.
Modou est chauffeur de taxi. Pour lui, il n'est pas envisageable de se faire vacciner, car d'après les rumeurs, ça rend stérile.
Le président, lui, peut se vacciner, mais moi, je n'y pense pas. J'ai peur. Il paraît qu'il peut te rendre stérile. Il a le même effet chez les filles aussi. Elles risquent d'être stériles à cause du vaccin. Donc, je ne vais pas le faire.
Ces rumeurs sont totalement balayées par le docteur Tcherno, qui estime que les vaccins homologués sont fiables. Cependant, il pense que la solution pour rassurer la population est plus sociale que médicale.
Il faudrait qu'il y ait des exemples, des autorités qui se fassent vacciner devant tout le monde et qu'on vulgarise ces images dans tous les domaines, que ce soit des prêtres, des imams, hein, des marabouts soi-disant, des autorités politiques de tout ordre et de toute hiérarchie. Ils se font vacciner, les autres, et feront vacciner leurs familles, les autres auront confiance et vont adhérer facilement.
Annoncé à partir de mars 2021, la campagne de vaccination prévue est déjà l'objet de polémiques. Une frange de la population en a une mauvaise perception. Malgré la flambée du virus et des malades qui se comptent par centaines actuellement, beaucoup de Sénégalais restent très sceptiques sur la fiabilité du vaccin. Serina Abagé à Dakar pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless. Peace, Africa.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous.